俺の体はポンコツでガタが来てますあちこちに。
Bonjour les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau format dont on n'a pas encore déterminé le nom. Bon, on va faire un brainstorming. Moi, j'ai pensé à Alter Ludo, puisque Alter Ego, un petit jeu de mots, n'est-ce pas? Pas terrible, mais pourquoi Alter? Parce que j'ai pas réussi à trouver une autre façon de parler des jeux dont on veut vous parler aujourd'hui, et on l'espère avec une certaine régularité, voilà, des jeux que j'ai envie de nommer alternatifs. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi alternatif dans ma tête, même si je pense que ce premier épisode va être assez intéressant pour peut-être déterminer un cahier des charges et tout. Mais pour moi, en gros, il faut s'imaginer un peu un diagramme ou une courbe. Soit tu parles d'un truc récent, mais vraiment voilà, de niche, qui n'a pas eu beaucoup de promotion, quoi. Soit tu vas parler d'un truc plus ancien, et là, on peut se permettre de parler de trucs qui ont eu une bonne couverture médiatique en leur temps, mais dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais l'idée, en fait, c'était un peu, j'ai réalisé, hein, comme d'habitude, à travers le Discord Merugesu et autres, on discute et il y a pas mal de gens qui rejouent à des vieux jeux, mais des jeux, tu vois, qui sont pas tellement évidents. Donc, pour ce premier épisode du format qui s'appellera peut-être Alter Ludo et peut-être pas, j'ai invité une superbe équipe, la Dream Team. Alors, déjà, bon, l'indéboulonnable Shambhala est présent.
Salut.
Ensuite, on a un autre classique, comment dire, un des intervenants qui était là sur le premier Trollcast publié chez Merugesu, c'est Dizer.
Bonjour.
Et voilà, Dizer qui fait son comeback. Et enfin, le dernier invité, et ça, c'est mon moment préféré dans les podcasts, c'est de teaser. Vous l'attendiez tous, il est enfin là. Le dernier membre de Merugesu à ne pas avoir fait de Trollcast, c'est bien sûr Guillaume.
Putain, c'est vrai, même Parvez avait fait un
même
un
pas Zou, même Parvez était là.
Mais ouais, je suis super excité, c'est mon premier Trollcast.
Voilà, ben c'est bien. Ben, excite-toi mon ami, parce que je pense que ça correspond au thème. En gros, on a tous les quatre un jeu et on va en parler, voilà. Mais un jeu un peu, comment dire, de derrière les fagots, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Voilà, on parle à tour de rôle et bien sûr, on s'autorise à poser des questions, etc. Donc, Dizer, je commence par toi, tu vas commencer même.
Quel honneur.
Quel honneur, n'est-ce pas? De quel jeu tu voulais nous parler? Et du coup, vas-y, hein, c'est à toi.
Oui, merci de me donner la parole. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Spirit Hunter Deathmark. En tout cas, c'est le nom traduit. C'est un jeu qui a été développé par un petit studio japonais qui s'appelle Experience, ils sont vraiment pas très connus. C'est sorti en 2017 et c'est un visual novel slash jeu d'horreur slash jeu d'aventure, mais au sens jeu d'aventure façon Myst, façon un peu puzzle où tu cliques sur des choses, t'as pas trop d'affrontements, tu dois découvrir en utilisant les objets que t'as autour de toi. C'est le premier épisode de la série qui s'appelle Spirit Hunter. Elle a fait un tout petit peu parler d'elle dernièrement, puisqu'en fait le troisième épisode a eu son crowdfunding sur Kickstarter, donc ce qui prouve déjà de base que c'est pas un studio qui a beaucoup d'argent, donc on est quand même sur le jeu vraiment budget et un petit peu confidentiel. À la base, Experience, c'est une boîte qui fait des dungeon crawlers et tout, et ça a démarré Deathmark. Et en le faisant, en le rendant un peu glauque, un petit peu horrifique, ils se sont rendus compte que ça marcherait bien si c'était un jeu d'enquête. Alors juste pour le présenter un petit peu vite, en gros, on suit un personnage au début du jeu qui est amnésique, qui sait pas trop ce qu'il fait là, il a une marque sur son bras, la Deathmark, c'est bien trouvé. Et il va dans un grand manoir, il va dans un grand manoir où il y a une poupée qui lui parle et qui lui dit... pour enlever la Deathmark, puisqu'elle va te tuer si tu la gardes, il faut que tu trouves le démon qui te l'a donné, l'esprit qui te l'a donné, et pour ça, tu vas faire différentes affaires. Et tous les esprits que t'affrontes dans le jeu, c'est inspiré de légendes urbaines japonaises.
Ah.
Je vais prendre l'exemple du premier chapitre, et dans le premier chapitre, je vais vous expliquer comment le jeu se déroule. En gros, le premier chapitre, c'est sur un fantôme qui s'appelle Anaiko, c'est le fantôme d'un enfant mort dans une école abandonnée. Donc on est vraiment bien dans le... dans le délire de la légende urbaine. Pour aller le chercher, on donne vite fait des informations sur la légende urbaine, c'est un enfant qui aime pas les adultes, il apparaît quand tu regardes dans des miroirs, ce genre de choses. Et il y a deux partenaires qui te rejoignent, donc deux autres personnes qui sont touchées par la marque. T'as un gamin d'école primaire et t'as une lycéenne dans ce premier chapitre, donc assez classique. Les niveaux, ça se passe, t'es en première personne, façon dungeon crawler, donc t'avances d'une case à la fois, dans différentes salles. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est toujours sombre, et t'as une lampe torche que tu diriges avec le stick de ta manette pour éclairer les différents endroits. Quand tu trouves un endroit qui brille, tu veux t'interagir avec, et là, tu as l'option de regarder, prendre, utiliser un outil, consulter tes notes. Donc ça, c'est très classique. Et donc, tu vas avancer dans le niveau en ramassant différents objets, en les mettant avec toi, et il y a un moment, tu vas être confronté à l'esprit ou à ses pouvoirs, et là, ça va lancer des phases de vie ou de mort. En fait, les phases de vie ou de mort, c'est des moments timés durant lesquels tu dois faire une action. C'est répondre à un choix particulier, utiliser un outil spécial. Si tu te trompes, ça te tue pas, ça va t'enlever une partie de ta vie, mais ça va, à force, ça va te tuer. Donc les niveaux se déroulent comme ça, t'enchaînes les situations de vie ou de mort où t'avances, et à la fin du niveau, t'es confronté à l'esprit. Et là, l'esprit, c'est une phase de combat au tour par tour, où avec toi et ton partenaire, tu choisis des objets pour les utiliser sur l'esprit, et pour réussir à l'affaiblir et à le purifier. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Et pourquoi c'est assez cool, du coup, c'est vraiment difficile, en fait, de battre un fantôme. Tout le délire, c'est qu'il faut vraiment garder vraiment toutes les notes que t'as prises avec toi durant ton aventure, les objets que t'as ramassés et tout. Je vais prendre un exemple. En gros, ce gamin, Anaïko, c'est une histoire glauque. C'était un enfant adopté par l'ancien directeur de l'école, mais il aimait bien s'habiller en fille. Donc son père le battait, probablement faisait plus, dans une cave cachée dans l'école, il y a des ronces et tout. Le jeu, c'est très beau, c'est des super dessins, c'est très beau, mais c'est hyper glauque. Et en fait, quand tu l'affrontes, ce gamin, si t'as bien fouillé aux différents endroits, t'as appris que sa mère lui disait qu'il était très mignon. Et du coup, la dernière action que tu peux faire, en fait, c'est... tu peux lui mettre du rouge à lèvres et lui montrer son visage avec un miroir... Si t'as ramassé ces objets-là, et là, le fantôme, il fait « Waouh !» et tu le purifies.
Ah ouais.
Mais du coup, c'est vraiment, si t'as pas pris les bonnes notes, tu peux battre le fantôme. Et c'est là qu'on arrive sur le truc, c'est que si tu bats le fantôme sans le purifier, t'obtiens une mauvaise fin, en fait. Tu sais pas que t'as la mauvaise fin. C'est juste que, au moment où tu vas sortir de l'endroit, il y a ton compagnon, il va dire « Attends, je vais chercher un truc. » Et en fait, il va crever. Et tu vas pas le retrouver. Il va crever, t'as pas eu la bonne fin. J'embraye vite fait sur les compagnons. Tous les compagnons qu'on te donne dans l'aventure, ils ont tous des particularités un peu différentes qui sont associées au fantôme. Par exemple, Anaïko, là, le fantôme dont je vous parlais, il aime pas les adultes, et à un moment t'as un troisième partenaire qui se ramène, qui lui est un adulte. Et en fait, si tu le choisis avec toi, tu vas te faire déboîter par le fantôme. T'es obligé d'aller avec la lycéenne ou d'aller avec l'enfant. Et ça, la décision du partenaire, t'es obligé de la prendre dans tous les niveaux. Parce que si tu prends le mauvais partenaire, t'es flingué. Et le jeu est pas très long, il a 6 chapitres. Je les ai listés un peu, ça fait un peu de spoil, mais ça devrait aller, c'est juste pour vous dire le genre de légende urbaine qu'on croise. Donc au début, t'as l'école avec le fantôme d'enfant Anaïko. Ensuite, t'as une forêt abandonnée où il y a un esprit obèse qui creuse des trous dans les gens pour y mettre des abeilles. Pour créer des ruches.
On dirait Hannibal.
Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment très glauque, ce chapitre-là. Et là, en fait, t'enchaînes sur l'histoire d'une femme qui s'est fait agresser, violer avant son mariage, et ils ont pris des vidéos, des photos, ils ont envoyé ça à son mari. Et quand tu lui parles, faut jamais utiliser des sonorités qui font penser aux yeux. Parce que vu que c'est le côté où on a montré ce qui lui était arrivé, elle supporte pas ça.
Ah oui. Tu dois pas dire, par exemple, je vois, tu peux pas dire ça.
Exactement. Et je vais venir après sur ce genre de choses, sur les différents puzzles. En fait, il y a un fil rouge durant toute l'aventure que tu te rends compte peu à peu que ces esprits sont créés. En fait, les esprits existent toujours, mais là, ils sont particulièrement énervés à cause d'un esprit un peu gros, et c'est lui que tu suis sur toute l'aventure. Après, t'as un chapitre, t'es dans un bunker et t'enquêtes sur... Alors, c'est des expériences de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale où ils ont essayé de créer des statues de Bouddha qui marchent en transformant des êtres humains en statues pour qu'ils aient des pouvoirs mystiques. Et le dernier chapitre où bon, là t'es dans un love hotel et tu suis une fille qui en fait a voulu dénoncer ses camarades, c'est sur la prostitution adolescente qui est assez courante apparemment au Japon et ouais. Le dernier chapitre en parle. Et tu suis cette jeune fille dans un love hotel, donc c'est hyper glauque du début à la fin. Et sans trop en dire pour les gens qui aimeraient faire le jeu, il y a des histoires d'araignées. C'est vraiment, tu te sens pas très bien.
Oh God.
Tu te sens pas très bien. Et donc c'est vraiment en termes de setting d'horreur, c'est hyper original. C'est hyper glauque et honnêtement c'est hyper effrayant. Et il y a pas beaucoup de, il faut savoir qu'il y a pas de jump scare dans le jeu. En gros, quand vous passez votre lampe torche sur les différents écrans pour les regarder, parfois, tu vois vite fait un fantôme qui te regarde dans un coin. T'as un reflet qui apparaît dans un mur, dans une fenêtre. Tu vois des éléments comme ça. Donc en gros, même quand tu dois inspecter les lieux, t'as peur.
Ouais.
Mais en dehors des situations de vie ou de mort, t'es safe. Tu peux prendre tout le temps que tu veux.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Tu te feras pas attaquer. Ça, t'es tranquille. Et sur ces situations de vie ou de mort, les puzzles, par exemple, la mariée qui s'est fait attaquer, fallait pas utiliser le mot des sonorités avec les yeux, et là tu dois répondre à une série de questions.
Ah oui, d'accord.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a été traduit, mais tu sens que la traduction, les gars, ont un peu galéré parce que t'as des énigmes à base de kanji.
Ouais.
Et y a vraiment, quand faut pas utiliser la sonorité des yeux, à un moment t'es perdu parce qu'il y a vraiment pas la sonorité dans le mot, mais bon.
Ah oui, je vois, ouais.
Et les puzzles, ça passe vraiment partout. Mais en gros, c'est vraiment des trucs où si t'as pas pris un guide et si t'as pas pris des notes, oh, c'est quand même un petit peu compliqué parfois. Mais ouais, je vais juste finir. Il y a vraiment une pure ambiance. L'histoire, elle est très très cool. Les personnages sont tous attachants et ça va de tous les personnages. Bon, t'as des clichés un petit peu, mais tous les personnages sont cool. Ils ont des petits dialogues à eux et ils sont tous plus ou moins utiles en fonction des situations. Par exemple, t'as une idole qui sait faire de la musique. Donc quand t'as une énigme à base de musique, ça passe. T'as une savante qui sait parler allemand, à un moment tu trouves une énigme avec un truc en allemand.
Ça, c'est les compagnons, ça.
Ça, c'est les compagnons.
Ah oui, d'accord.
Non, mais voilà, en fait, je voulais en venir, c'était une expérience très bizarre. Il n'y a pas énormément de texte pour un visual novel. Tu passes finalement...
Ah ouais ?
Non, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Parce que tu passes finalement beaucoup de temps à explorer et à ramasser des objets. Il y a vraiment une assez grosse tension, en fait. Parce que tu sais jamais trop quand tu vas arriver au bout de ton exploration pour être confronté au fantôme. Et il y a surtout ce côté assez hypnotique des légendes urbaines japonaises qui sont quand même hyper glauques. Et plus t'avances et plus t'es, mais c'est horrible les gars. Enfin, tu sais, toi t'es dans un slasher à la Vendredi 13, tu fais c'est bien, c'est suffisant. Mais non, là c'est toujours des trucs. Enfin, tu vois, ça commence avec le fantôme d'un enfant. Tu fais qu'est-ce que ça va être après?
Tu m'étonnes.
Et je vais juste finir en disant que du coup il y a un deuxième épisode qui est sorti. Le jeu est disponible sur à peu près toutes les plateformes, Switch, PC, PS4, tout ça.
Ah, même sur Switch en français là actuellement?
Non, c'est en anglais. Moi je l'ai fait sur Switch. Sur Switch en anglais.
Ouais.
Et il y a la suite qui s'appelle Spirit Hunter NG, qui est aussi elle disponible sur toutes les plateformes et qui paraît qui est meilleure que la première dans tous les domaines.
Wow.
Et enfin, il y a le troisième épisode qui a été kickstarté avec succès, donc il devrait sortir dans pas trop longtemps. Et voilà, et c'était juste quand même une expérience assez éprouvante à faire parce que moi les jeux d'horreur enfin quand je peux toucher là, quand tu peux attaquer le truc qui t'attaque, ça va. Mais là et surtout que j'ai pas encore compris la logique de quand est-ce que tu voyais une apparition quand tu regardais un truc avec ta lampe torche.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est un peu cryptique et tout.
Ouais, c'est un peu cryptique et je crois que c'est aléatoire, je sais pas trop. Il y a des endroits où tu vois l'apparition qu'une fois, il y en a tu la vois plusieurs fois. Parfois tu trouves des objets t'aurais pas voulu les trouver, tu te sens pas bien, enfin. Voilà, mais du coup c'était une expérience assez hypnotique et assez cool.
Mais tu recommandes du coup?
Ouais, je recommande vraiment. Je pense qu'il faut quand même aimer un peu le visual novel de base parce que niveau gameplay ça reste assez léger, on est sur du point and click.
Ouais, voilà.
Avec quand même moins d'interaction, enfin moins de puzzle qu'un point and click. Il y a des petits défauts, il y a quelques petits défauts qui peuvent être un peu frustrants. Il y a ces petits problèmes de traduction qui rendent certaines énigmes un petit peu complexes. Ouais. Et il y a aussi parfois un petit peu de backtracking où quand tu arrives face à un obstacle et tu sais que t'as pas le bon partenaire, t'es quand même obligé de retourner tout à l'entrée du donjon, enfin du lieu pour aller changer de partenaire. Donc il y a des petits défauts, des énigmes un petit peu perchées, hein, faut être honnête.
Ouais.
Mais franchement, juste pour l'ambiance, j'ai quand même passé un pur moment, quoi.
Ouais. Mais en fait, on est limite autant, ouais, dans un point and click que dans un visual novel, que dans un dungeon crawler. Donc c'est un peu à la rencontre de différents genres, quoi. Je sais pas comment dire, à la croisée des chemins.
Ouais,
j'ai l'impression.
Parce que
les énigmes perchées, ça, c'est un truc qu'on retrouve super souvent dans les point and click, quoi. Donc, ouais. Du coup, ouais, c'est intéressant parce que les lieux, en fait, où les lieux hantés deviennent des donjons, c'est ça, en gros.
Ouais, c'est ça, c'est faux. C'est vraiment façon dungeon crawler où les lieux hantés, en fait, t'avances salle par salle, quoi. C'est salle par salle en première personne.
Ouais, ouais. Et là, j'ai les images sous les yeux, donc ouais, pendant que tu parlais, j'ai pu regarder et tout. Et en effet, déjà visuellement, esthétiquement, ça a l'air mortel. Mais justement, t'as peut-être aussi t'as une vibe un peu persona dans le fait que c'est des lieux un peu du quotidien qui sont transformés et tout, ou pas du tout?
Un peu. Il y a un moment, vite fait quand même, parce que c'est des lieux du quotidien, enfin le Love Hotel et tout. Enfin, un peu. Il faut savoir que toute l'action se passe toujours de nuit. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là où tu te dirais, mais de jour, ce serait pas aussi effrayant.
Ouais.
Il y a aussi un petit côté. Alors là, je vais peut-être me tromper sur les termes. Il y a un côté un peu le côté du giallo italien où il y a le côté érotique et gore en même temps.
Ah oui, ok.
Parce que il y a parfois, il y a vraiment parfois des personnages où c'est un peu, tu les retrouves et c'est une situation un peu érotique, mais en même temps c'est vraiment gore autour, quoi. Enfin c'est.
Ouais, c'est pas le moment, quoi.
Ouais, c'est pas le moment. Le jeu est pas trop gore, sauf il y a un moment où vraiment il pousse à fond. Tu fais, des têtes d'animaux et tout, mais t'es toujours sur cette fine bordure entre le moment où ça va dégénérer complètement et tu sens que t'es toujours vraiment sur la limite de passer du côté où c'est horrible, quoi. C'est horrible.
Ok, nice. Ouais, en tout cas, c'est vachement intéressant et c'est assez tentant, surtout si c'est accessible sur toutes les plateformes. Les gars, vous avez des questions, vous avez pensé à des questions ou à des réactions ou des choses comme ça?
Moi, ça me fait super plaisir que t'en aies parlé parce que comme je l'avais dit sur Discord, c'est un jeu que j'avais repéré à l'époque sur Vita quand il était même pas encore sorti à l'époque. C'était même avant 2017, je me souviens, le tout premier artwork, c'était justement la mariée avec une cabine téléphonique.
Tout à fait.
Juste, j'avais vu l'artwork, j'avais dit putain, ce jeu-là, puis après, au final, j'ai complètement oublié. Et j'ai appris plus tard, du coup, que le chara-designer, je crois que c'était celui de Zero Time Dilemma.
Oui, tout à fait.
Donc,
le troisième
épisode des Nonary Games.
Ouais,
et
c'est ça.
Et que pareil, qu'il y avait des artworks que je trouvais magnifiques, et ça me fait très plaisir que tu me rappelles du coup ce jeu, parce que maintenant que je sais qu'il est sorti sur toutes les consoles, je vais certainement essayer de me le faire.
Il y a les artistes, j'ai noté leur nom. Alors, je suis vraiment mal écrit. Il y a Rei Tomohino, j'ai vraiment très mal écrit. Et Fumiya Sumio. Et oui, je crois qu'ils ont participé au.
Ouais, il y en a un des deux au moins.
Zero
Time.
Et en tout cas, ouais, il y en a un qui s'est occupé des personnages et l'autre qui s'occupe des lieux. Et...
Bah, tu sais, moi, ça, c'est marrant que tu aies parlé de ça et du coup de fantômes japonais. C'est une coïncidence, mais hier, j'ai écouté un podcast sur justement les fantômes japonais après le tsunami. Donc le tsunami qui a causé Fukushima et tout. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir à quel point les Japonais, ils arrivent mieux à coexister avec les fantômes, quoi. Je sais pas si ça vient du Shinto ou quoi, mais en fait, tu vois que c'est genre, j'ai vu des gens faire la queue devant ce magasin alors que le magasin, il existe plus depuis le tsunami. Ou alors une autre histoire, genre un chauffeur de taxi. Ça, c'est vraiment pour vous montrer à quel point les Japonais peuvent vivre avec les fantômes différemment. Un chauffeur de taxi qui a pris dans son taxi une personne et tout, et ils discutent. Oh, mais voilà. Et le chauffeur de taxi comprend que la personne est morte, la personne disparaît, mais le chauffeur a quand même terminé sa course, a ouvert la portière pour le laisser rentrer chez lui, et il est reparti, tu vois. C'est un peu une anecdote, mais je veux dire, c'est pas genre, c'est un peu plus.
J'ai l'impression que c'est les Asiatiques en général, pas que les Japonais, en fait.
Ouais, sûrement aussi les Asiatiques en général. Parce que là, dans le jeu, si j'ai bien compris, t'as moyen de libérer le fantôme ou.
Ouais, c'est très important, c'est ça. C'est voilà. Soit tu tues le fantôme, soit tu le purifies. Ouais. Mais on te fait comprendre que dans l'histoire, d'ailleurs, tu peux avoir la bonne fin du jeu, la vraie fin, que si t'as si t'as toujours purifié tout le monde, parce que ce qu'on te fait comprendre, voilà, c'est qu'en fait, ce que tu infliges aux esprits, ils vont te le rendre. C'est pour ça que chaque fois que tu tues un esprit, au lieu de le purifier, il emporte un de tes compagnons avec lui, en fait.
En gros, c'est soit tu réussis un peu l'énigme globale, et là, tu le libères, soit tu, quoi, t'échoues, mais t'arrives quand même à le tuer, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça. En fait, tu le tues, ouais, et tu te rends compte que tu l'as mal tué que parce qu'après, y a un dialogue, ton personnage, il fait « Attends, j'ai oublié un truc dans le bâtiment, je retourne », ou t'as la lumière qui coupe, et tu vas le chercher, et t'as une mare de sang, le personnage a disparu, quoi.
C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les jeux Jap, justement, dans les jeux Jap horrifiques, mais pas que, cet aspect de devoir soit apaiser un esprit, soit le combattre.
Oui, il y a peut-être ça dans les... Project Zero, avec les appareils photo.
Project Zero, il y a ça, il y a Luigi's Mansion, il y a ça. récemment, quitte à percer tout de suite l'abcès du point Kojima dans Death Stranding.
Ah ouais.
On peut soit complètement bousiller les échoués, soit les apaiser.
Ouais. Eh non, mais c'est marrant, il y a un aspect. En Asie, le fantôme.
Toujours cette dualité.
Voilà, ouais. C'est pas tout à fait un ennemi, c'est plutôt souvent une victime, même, le fantôme.
Ouais, ça c'est très important.
Une entité avec laquelle on cohabite.
C'est souvent, dans tous les chapitres, presque tous, c'est quand même des. Presque tous, ouais, c'est des victimes.
Ouais, non, mais c'est ça.
C'est des victimes, c'est des gens qui ont souffert et qui n'ont pas pu avoir le repos, en fait, dans cette vie. Et donc tu dois leur rapporter d'une certaine manière.
Ouais, absolument.
Le choix, c'est vraiment en fonction de toi comment t'as compris le gros puzzle global. En fait, c'est un chapitre, c'est plein de petits puzzles pour avancer et récolter les objets, et la confrontation à la fin, c'est résoudre le puzzle global en utilisant les bons objets.
Bah justement, on va reparler de ça peut-être plus tard dans ce podcast, les point and click, peut-être à quel point parfois il faut être très attentif dans ce type de jeu. Mais c'est intéressant en tout cas, et c'est bien qu'ils essaient de faire une hybridation, si je puis dire, de différents genres comme ça pour créer quelque chose d'assez neuf, j'ai l'impression quand même. Après, j'ai pas une grande culture des visual novels, mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment... voilà, dans quelque chose d'hybride, quoi.
Ouais, je pense qu'on peut vraiment le considérer comme un jeu d'aventure. À part, c'est pour ça que je dis que pour un visual novel, il a pas énormément de texte. Et pour quelqu'un qui est pas trop visual novel, mais qui aime bien les jeux d'horreur ou les jeux à ambiance, je pense que ça peut tout à fait faire le taf.
Finalement, on dit que c'est un visual parce qu'on est encore sur un graphisme 100% dessiné, quoi. C'est aussi ça qui amène cette idée du visual.
C'est ce qu'on appelait avant des jeux d'aventure, quoi.
C'est ça.
D'habitude, maintenant, le visual novel, c'est beaucoup d'écrans fixes et des histoires qui se suivent, ouais, où on appuie, on fait défiler le texte et puis voilà. Plus dans ce que fait Phoenix Wright, avec des petites énigmes mais scriptées. Alors que là, ce que tu décris, c'est quand même beaucoup plus du jeu d'aventure où on explore d'abord et puis. Et puis on résout les situations après, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant, ouais.
Franchement, j'invite les gens, ne serait-ce qu'à regarder une petite vidéo, un petit walkthrough sur YouTube d'un niveau ou deux, et juste pour l'aspect esthétique et l'aspect visuel et l'aspect des lieux, et je pense que ça devrait plaire à pas mal de monde, en fait.
Ouais, franchement, ouais. Ouais, franchement, là, tu m'as convaincu.
Ouais, pareil.
Hein, je vais checker ça.
Ouais.
Voilà, excellent. Alors, maintenant, on peut passer à... Allez, Guillaume, tu te lances.
Bah, attends, mais moi, j'ai pas aussi bien préparé que...
Ouais, mais personne n'a bien préparé.
On te connaît.
Bien préparé.
Voilà. Dizer, c'est pour ça que j'ai commencé par Dizer. Je me disais, il a bien préparé truc et il l'a prouvé. Maintenant, Guillaume, t'inquiète, chacun le fait à sa sauce, donc fais-toi plaisir.
Parce que moi, le jeu, en fait, c'est dès que tu m'as posé la question, est-ce que c'est un jeu auquel t'as joué, qui était un peu chelou, etc. J'ai direct pensé à un des jeux les plus chelous que j'ai joué de ma vie. qui s'appelle Warcraft. Donc c'est Hor, je crois, c'est ça. Comme une putain.
C'est World of Warcraft.
Alors en fait, c'est justement,
ouais.
Alors je vais y venir, mais en fait, en refaisant des recherches pour retrouver le jeu et essayer de me rafraîchir la mémoire dessus. En fait, il y a un World of Warcraft, mais c'est pas le jeu auquel j'ai joué, c'est carrément un autre jeu encore. Ça, c'est ça a l'air d'être carrément un MMO de cul, quoi. Et là, moi, le jeu auquel je jouais, c'est un jeu d'aventure épisodique, donc tel style, quoi. Sur l'univers de Warcraft. un peu érotique, même plus, voire pornographique même, je dirais, parce que c'est clairement pornographique. Et alors j'ai honnêtement j'ai essayé de retrouver l'histoire parce que je me souvenais plus du tout de ce que c'était. Et je crois que la seule façon de connaître l'histoire, c'est d'y jouer, parce que j'ai retrouvé nulle part l'histoire. Mais de mes souvenirs, c'était sur une jeune drainée. Donc, j'imagine que vous avez tous plus ou moins joué à Warcraft. Mais pour ceux qui savent pas, alors les drainées, c'est une race qui, en tout cas dans World of Warcraft, fait partie de l'Alliance, qui est arrivée, il me semble, avec Burning Crusade, si je dis pas de conneries. Qui c'est des espèces, je sais pas, c'est du tout des hommes et femmes cheval, je sais pas.
Ah ouais.
Comme je sais pas comment, je sais pas si vous avez joué.
C'est
comme...
pas des centaures. C'est pas des centaures.
Non. Mais ils ont des sabots, ils ont des queues et ils ont. Ah, on dirait un peu des espèces d'elfes chevaux en fait.
Ah, ok. Non, je connais pas les drainés. J'ai pas.
Un peu bleu. Je sais pas si il y en a d'autres qui ont joué, s'ils peuvent peut-être mieux décrire que moi ce que c'est.
Des femmes book.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
C'est des book. Elles ont des. C'est des satyres au féminin. Enfin.
Ouais, c'est vrai que c'est des satyres. Ouais. C'est vrai que.
Elles ont pas les jambes. Elles ont pas les jambes poilues, mais elles ont les cornes. Et tu sais, elles ont les jambes cassées d'un book.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ah oui, d'accord.
Satyres, c'est exactement le terme. Donc, c'est des hommes et femmes satyres, bleu et un peu elfique dans le délire. Et donc tu joues une jeune drainée qui est un peu frivole. Et en fait c'est un jeu qu'il faut télécharger sur des sites obscurs. J'avais un peu peur de choper des virus ou des trucs comme ça. Donc je l'avais fait sur un PC où je m'en foutais, où je me disais ouais, au pire c'est pas grave, je ferai une refonte de Windows. Et donc du coup, ouais, ça tourne sur Unreal. À l'époque, moi, ça tournait sur le 3. Ouais. Mais je crois que maintenant... Donc, alors, tu vois, j'ai vu depuis, ça, le jeu, il a complètement changé. Il a l'air d'être 100 fois plus abouti. Parce que moi, c'était réellement, en fait, de balader dans un monde complètement vide qui ressemblait plus ou moins à Warcraft. À mon avis, ils ont dû pomper des assets graphiques de Warcraft.
Ouais.
Et en fait, le but, c'était juste d'arriver jusqu'à la scène de cul où, en fait, t'as différentes scènes et tu passes d'une scène à l'autre. Et en fait, à chaque fois, bah, tu peux bouger la caméra, etc. autour du truc. C'était extrêmement mal fait. Et je sais même pas pourquoi je suis allé jusqu'au bout de ce jeu parce que c'était...
Ah, mais tu l'as fini, quand
même. Je pense que depuis, il y a d'autres épisodes, donc je l'ai pas complètement fini, mais parce que là, du coup, voilà, moi, le jeu auquel j'ai joué, c'est ça, c'est sur une fille qui veut partir à l'aventure, etc. Mais en même temps, elle se fait un peu bolos par des gnomes qui la forcent à faire des choses pas catholiques avec eux.
Oh mec, je suis en train de regarder le Twitter du jeu. Je savais même pas qu'on pouvait montrer ça sur Twitter.
Ah, sur Twitter, tu peux montrer ce que tu veux, hein.
Eh, je crois bien.
et donc voilà.
Certains retweets le prouvent que sur Twitter tu peux tout montrer.
Donc depuis le jeu, moi à l'époque réellement, hein, c'était vraiment, t'allais à un point A, t'avais une scène, il y avait un mec qui te parlait. Et en fait, c'est marrant parce que le titre Warcraft, il est bien trouvé parce que la meuf, c'est vraiment, elle se fait traiter comme une merde par tout le monde, en fait. Elle a même pas, tu sais, c'est même pas le truc héroïne badass, etc., quoi. C'est vraiment la meuf, bref. Et donc, du coup, j'ai vu maintenant dans les nouvelles, j'ai regardé du gameplay des nouveaux trucs. Bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même moteur un peu dégueulasse. Enfin, la même version d'Unreal un peu sale, un peu.
Ouais.
Tu sais, les mecs qui mettent la réflexion à fond sur les assets et qui disent, ah, putain, voilà, c'est trop beau, etc.
Les shaders, ça fond, de ouf.
Et sauf que maintenant, apparemment, visiblement, ils ont rajouté, t'as de l'équipement. T'as aussi une barre de vie, une barre de mana et des choix multiples aussi, etc.
Mais genre des choix multiples dans les scènes ou dans les dialogues et
dans les dialogues.
Ouais.
Ouais.
Ok, donc ça c'est RPG-ifié. Ouais.
Et des trans elfes de sang. Je sais pas si ça donnera envie à certaines personnes de de regarder, mais voilà. Donc okay. C'est assez pas, enfin en fait je suis désolé de pas pouvoir en dire plus, mais ouais. Mais c'est juste en fait dès que tu m'as dit de jeu alternatif, direct j'ai pensé à ça et j'étais là genre ouais, ouais c'était vraiment alternatif comme jeu, c'était assez tu sais ils ont quand même essayé de justifier le truc, tu vois, genre en se disant ouais. Non, mais on va mettre un peu de gameplay autour, etc.
Mais et le gameplay, c'est-à-dire le gameplay, il y en a à part la marche d'un point A à un point B. Genre, il y a du gameplay dans les différentes scènes à la manière de ces jeux flash un peu flingués ou de ces jeux japonais où il y a beaucoup trop de gameplay ouais. Et ça te met mal à l'aise.
Bah alors là le après tu vois comme je t'ai dit aujourd'hui le jeu apparemment ils ont ouais. L'air d'être allés beaucoup plus loin, il y a des sorts etc. Mais moi de ce que j'avais c'était ouais vraiment tu marchais dans un monde vide, t'allais parler à des mecs et il fallait trouver des objets, c'était vraiment l'équivalent d'un point and click bas de gamme ouais. Quoi.
Ou un comment c'est, il y a un style de jeu où le but c'est juste de trouver des objets.
J'ai oui c'est vrai ouais. Style,
mais là quand même ils se sont fait chier à se dire vas-y on va pas que uploader des vidéos.
Une fois que t'as le cœur de ton concept tu te dis bon bah vas-y on fait un gameplay après maintenant.
Ouais voilà ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que... mais c'est intéressant qu'ils aient fait un truc temps réel, c'est du temps réel quoi. Ah, c'était, ouais, ouais. C'était dans l'Unreal, machin, tu te baladais et au final, non, ça rentre vraiment bien dans le thème au final. Hein.
Mais en fait, moi, ce que j'ai jamais compris avec ce jeu, c'est pourquoi, comme disait Shambhala, de faire un gameplay quand on a un cœur de truc, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et essayer de trouver un moyen de simuler ces scènes-là en fait. C'est ça que je comprends pas ça... en fait, tu vois, genre pourquoi se faire chier à faire des assets à la con. Où tout le monde s'en branle, de toute façon tu sais que les mecs ils veulent juste voir. Moi c'était vraiment pas parce que je voulais c'était de la curiosité hein, c'était scientifique hein. mais le cœur de cible on va dire était plus il veut plus les scènes, donc pourquoi essayer ouais. De trouver un, tu vois, tu t'es fait ouais. Chier à faire des animations, à faire des modélisations etc. de tub, pourquoi t'essayes pas de trouver un moyen de, tu sais, de te creuser un peu la tête et de rendre ça un peu comme l'avait fait Larry à l'époque quoi.
Ouais, c'est-à-dire
bah d'avoir des espèces de petites scènes un peu grivoises avec ah oui. des simili QTE etc. tu vois.
Ah oui, d'accord. Ouais ouais, de créer de l'interactivité dans la scène et tout.
Bah ouais, parce que là il y en a pas.
Ouais. Ouais, en tout cas dans cette version 1.0 ou même peut-être bêta, il était parmi les bêta testeurs
ouais, Guigui. Putain, ouais,
mais peut-être que ça a évolué, donc on laissera les auditeurs checker s'ils sont curieux. Ouais.
Après pour le coup c'est clairement un jeu alternatif et surtout qui fait partie d'une scène assez obscure dont on parle jamais sur aucun site JV ou quoi, mais qui existe, qui est soit le rip-off de jeux à caractère porno, soit juste ouais. des vrais RPG, mais où ils ont rajouté des sets de cul derrière, quoi.
Ouais. Il y a un groupe qui est très connu pour ça, le groupe s'appelle Nutaku.
Ouais.
Nutaku. Okay. Et ils sont assez connus pour ça, c'est parce que ils font des sites qui étaient des jeux, donc, qui sont que tournés sur ça, c'est genre, t'es patron d'une boîte, ouais. Ils ont tout un délire qui s'appelle Harem Heroes où c'est l'univers de DBZ, mais au lieu d'avoir des Pokémon, oh. C'est les mêmes ton harem et tout. Et ils s'étaient fait connaître parce qu'en fait, dernièrement, ils avaient racheté, en fait, ils acceptaient de produire tes jeux si tu rajoutais des scènes dedans.
Ah oui.
Oh.
Ils s'étaient fait connaître parce qu'ils avaient racheté un jeu de moto qui s'appelait Road Rage, un truc dans le délire de Road Rage, mais qui avait pas trop marché. Et ils ont dit, ok, les gars, on veut le produit. Ouais. Mais on veut qu'à la fin de chaque course.
Ouais, c'est pas mal. Parce que Road Rage, c'était très cool comme jeu.
Ouais, mais c'était un délire Road Rage, qui est un jeu qui avait pas marché. Et les gars ont accepté de le racheter. Mais c'est à la condition que les mecs rajoutent beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup de scènes, beaucoup à fond. Et à la fin des scènes où, genre, tu gagnes ta course, pourquoi pas gagner autre chose en même temps, tu vois, c'était...
Ça me rappelle.
Et là, l'Umbrella Girl qui vient de voir, il fait...
Exactement, c'est exactement ça. Et il me semble qu'ils cartonnent et que ça marche à mort, parce que, tu sais, c'est des jeux dans lesquels ils te mettent des microtransactions, ils ont vraiment créé des MMORPG entiers autour de ça.
Ça me rappelle BMXXXX sur PS2 à l'époque.
Oui, putain.
J'étais tombé il n'y a pas si longtemps que ça sur un article, c'était peut-être sur Gamasutra ou je sais plus, d'un des devs du jeu. qui expliquait que, en gros, la raison d'être du jeu à l'époque, c'était à peu près la même chose, c'est que ils avaient déjà tous les assets pour un jeu de vélo, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils savaient pas quoi en foutre, et puis l'éditeur leur a dit, bah écoutez, mettez du cul dedans.
Hein. Ajoutez des boobs. c'est ouf,
incroyable.
Hein. Tu sais, c'est marrant, quand tu me racontes l'histoire, je vois vraiment un mec en costume avec un cigare.
Tellement.
Et tu sais, limite un petit accent italien en disant non mais rajoutez-les un peu de cul là, mets-lui un peu plus des gros boobs elle.
Mais c'est vrai.
Alors j'imagine ça, vraiment le producteur de base, tu vois, genre.
C'est complètement dingue ce genre de truc qu'on.
C'est.
Tu sais, c'était ces jeux en flash qui avaient démarré sur, ça s'appelait comment, Newgrounds, Playgrounds.
Ouais. Quelque chose.
Vous voyez ce site où on avait des jeux en flash et il y avait
l'usine à gaz, tout ça là.
Exactement, avec l'usine à gaz, le mec sur le tank, et ça avait commencé avec un. Ah, c'était une meuf, elle avait les cheveux violettes, elle avait une barrette, c'était un crâne. Je sais plus, c'était produit par un truc qui s'appelait Hentai Factory, quelque chose comme ça, mais vraiment. Et c'était. Wow. Et c'est ce genre de jeux qui ont évolué. Vous savez, ça avait pas mal fait parler de ça. Au Japon, ils avaient un jeu qui s'appelait Rapley. Rayplay.
Ah, bah oui, bien sûr. Bien sûr.
Plus parler.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais. Il y avait aussi comment ça s'appelait, Unlimited, je sais plus quoi là, qu'on avait failli mettre, tu te souviens, dans le Théo.
Ouais, ça me dit. Ah bah oui, du coup, dans notre vidéo.
On avait failli le mettre dans la vidéo sur le cul, où c'était, tu créais de A à Z ta poupée, quoi. En gros, c'était une poupée.
Ouais.
Et après, juste tu pouvais, tu devais débloquer des pratiques à force de le faire avec elle, quoi.
C'est vrai que ça, c'est pour le coup, c'est très alternatif. Hein.
Ouais.
Parce qu'au Japon, ils en ont plein, des trucs comme ça. Ça varie sur plusieurs catégories. T'as les visual novels avec des scènes, les visual novels où il y a que ça, tout le temps. Et après, t'as les trucs vraiment genre replay et tout, où tu fais... Ça doit être chaud, ça doit être vraiment être chaud de travailler sur un jeu comme ça toute la journée.
Quoi. Non, mais après, moi, ce que je comprends pas, c'est que pour moi, c'est la même logique que le porno. C'est... Pourquoi t'essayes pas de faire une façon d'une façon originale et même qui peut être enfin tu vois genre un porno que tu peux regarder comme un film normal et oui bon à un moment il y a une scène où tu vas avoir du sexe et tout ça mais pourquoi pas faire un jeu qui est en termes de gameplay qui est intéressant où tu peux glisser aussi du sexe qui peut être aussi lié au jeu par le gameplay, ça peut être intéressant, tu vois. Et ça, c'est un truc où les, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, en fait, le truc est tellement, enfin, comme on disait dans Théo, quoi, c'était dans Théo le fou, c'était dans Théo directement, c'est que c'est encore trop puritain, donc, alors le porno, la violence, ouais, autant que vous en voulez, mais du porno, bon,
je pense que c'est aussi une bête question de rentabilité, c'est comme pour le porno à une époque, bah oui, il y avait des directeurs photos, etc., puis petit à petit, ça s'est zappé quand Internet est arrivé.
L'amateurisme, ça a tué. Ouais, non,
pour
bien sûr.
Sur le gonzo et l'amateurisme.
Ouais, mais tu regardes aujourd'hui, par exemple, si tu regardes le porno, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est les amateurs pros, en fait.
Les verified amateurs.
Ouais, exactement. Ouais, non, mais voilà, mais maintenant, c'est ça qui cartonne. Donc, au final, moi, je pense que des gens seraient prêts à payer pour un bon jeu porno
oui, mais
bien
du
fait.
Il y en a, mais c'est des trucs vraiment de niche. C'est des trucs qu'on trouve. C'est genre la série de JRPG, la Rance, qui est une espèce de harem, mais pas trop, mais qui est surtout un vrai JRPG. Certes, bon, ça a pas la profondeur d'un Ni no Kuni pour citer un nom au pif, hein, ce genre de choses, mais c'est quand même un vrai jeu. Et derrière, bah, dans les dialogues, ouais, t'as toutes les scènes de cul, etc.
Mais finalement,
ça,
ce que tu dis,
de super niche, quoi.
Finalement, ce que tu dis sur les verified amateurs, c'est un peu le même délire où finalement, Warcraft, c'est fait par des amateurs pro. Enfin,
je pense que
c'est un peu la même boucle.
Non, mais je pense que oui, pour arriver à un moment où tu maîtrises un moteur, enfin je suis pas créateur de jeux vidéo, tu dois mieux savoir que moi, pour arriver à un moment où tu maîtrises un moteur au point de pouvoir en faire un jeu de A à Z auquel tu rajoutes qui continue sur le temps, c'est que oui, les mecs ils doivent quand même connaître un minimum leur truc, quoi.
De toute façon, si c'est Unreal, ils sont, je veux dire, ils ont un deal quoi avec Unreal. Enfin, je veux dire,
tu peux l'acheter,
ouais, tu l'achètes, mais t'achètes une licence quoi. En gros, comment ça se passe? Non, maintenant c'est gratuit. Comment ça se passe? Je sais pas si tu le sais.
En fait, ça dépend de combien tu vends d'exemplaires jeu à la fin. Tu peux l'utiliser gratuitement et tu finis par payer que à partir d'un certain nombre de ventes. et ouais. que si tu commences à vouloir faire des portages de ton jeu.
Ah oui, genre sur console.
Ouais,
et tout.
C'est ça. Et ouais, évidemment, tu peux payer quand tu veux avoir un soutien pro de la part d'Unreal. Et donc, t'as certaines ouais. features. Mais si t'es juste un mec tout seul, tu peux, bah, c'est un peu toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, Mario 64 ouais, fait dans ouais. Unreal et tout. Quand t'es tout seul pour juste créer de la démo technique, ça, c'est complètement gratuit. C'est à partir du moment ouais. où tu vas vouloir vendre que ça
ouais,
va coûter.
Aussi, ouais. D'accord, ouais.
Et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote. Ouais, j'ai fait quand j'étais en quatrième année de mon école, je suis allé faire un stage dans une boîte en Belgique, qui travaillait sur ouais. différents jeux. Et je sais pas trop comment, à un moment, il y avait eu le Humble Bundle Sakura. C'est que des visual novels. Que de cul tout le temps.
Wow.
Et mais ah c'est oui, vraiment on est au niveau du dialogue minimal quoi, c'est tu discutes et à un moment elle fait bon, on va peut-être pas trop perdre de temps.
c'est trop bien, c'est le jeu mais vraiment qui se fout de la gueule du visual novel quoi.
Il me semble qu'ils sont actuellement sur le Humble Bundle en plus. Si je dis pas de conneries, ouais. je check très vite.
Il y a eu il y a eu des Humble
et du coup la discussion était tombée sur ça et le patron de la toute petite boîte dans laquelle j'étais, il trouvait ça trop bien parce qu'il a fait mais en vrai attends, j'embauche un artiste
ouais.
et il y a moyen d'en vendre plein derrière
ouais.
et il était trop chaud et il a commencé à en discuter avec les gens de sa boîte et les gens de sa boîte étaient d'accord pour le faire et là on touche à l'absurde, c'est qu'on a comme il a voulu en tester un. Du coup, on a fait un playthrough de ce truc à 4 derrière un écran et c'est hyper malsain quoi, on était vraiment trop mal.
Bah, tu sais, c'est oui, l'équivalent de regarder un porno avec tes potes quand t'es ado.
Ouais, mais là, c'est ton patron.
Mais en fait, ça n'a aucun intérêt, les gars. Pourquoi on fait ça, quoi?
C'est ton patron. C'est avec une lycéenne dans un lycée. Ouais. Enfin, il y a trop de trucs.
Ouais,
ils sont actuellement sur le Humble Bundle. Ils sont actuellement en solde sur le Humble Bundle. Bah. Je poste le lien si quelqu'un veut le voir.
Foncez. Il faut y aller. J'avais un truc à rajouter parce que ça a tellement parlé de cul, mais par rapport au visual novel et tout, c'est un truc aussi qu'on n'a pas mis finalement dans la vidéo sur le sexe dans le jeu vidéo, mais vous connaissez l'anime School Days.
Ouais. Oui, évidemment.
C'était un anime que les gens avaient pas mal kiffé, presque comme un anime quoi, pas comme un truc érotique et tout quoi. Et c'est ouf parce que les mecs qui avaient fait ça, Overflow, je crois que c'était le nom de la boîte. Et ils étaient allés beaucoup plus loin que ça, parce que School Days, en gros, c'était comme l'animé, mais avec des scènes de cul, et c'était interactif avec plusieurs fins et tout. Et ensuite, ils ont sorti un autre jeu, genre Summer Days, à peu près pareil, mais après, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Cross Days. Et là, c'est pour rejoindre, Guillaume, ce que tu dis par rapport au gameplay dans les scènes de sexe et tout. Mais alors là, c'est pas tout à fait du gameplay, c'est que je sais pas si c'est les premiers à avoir fait ça, j'imagine que non. Mais en tout cas, ils s'étaient vraiment bougé le cul pour sortir vraiment un accessoire où en fait bah tu, bon là ça devient trivial, vous avez compris, où en fait t'allais te brancher les parties intimes et être connecté au jeu et tout. Mais c'est vraiment, finalement c'est assez expérimental aussi quand on y pense,
c'est complètement expérimental.
Ouais. Mais ils avaient fait ça et j'ai pas
Virtual Boy expérimental,
ouais voilà c'est ça. Mais tu vois, qu'une boîte comme ça de visual novel finisse par... Bon, ok, ils avaient cartonné avec l'animé, mais ils finissent par sortir carrément du hardware, quoi. Ouais. Je trouve ça...
Jamais j'ai confiance, moi.
ouais, moi non plus.
Jamais,
ouais.
Enfin non, c'est mort, quoi.
T'imagines, ça bug. Oh, God. Ok, plutôt cool. Tout ça, c'est très intéressant, en tout cas. Shambhala, tu veux y aller?
Si tu veux, ouais.
Ouais, bah comme tu veux, vas-y.
Alors, je vais vous parler de... J'ai cherché, quand tu m'as demandé, d'un jeu un peu alternatif, parce qu'on avait parlé de SD Snatcher, etc.
Ouais.
Et y en a un qui m'est revenu, auquel je rejoue très régulièrement, peut-être que vous le connaissez.
Mm-hmm.
C'est un vieux jeu qui est sorti sur Super NES, en 93-94, qui s'appelle SOS. Septentrion, dans sa version japonaise. Qui est sorti, alors c'était développé par Human Entertainment à l'époque, donc c'était le développeur de The Fireman, qui ont été plus tard ceux de Clock Tower.
Ah ouais, d'accord.
Ah.
Ouais.
Et en gros, SOS, c'est un jeu
c'est sur le
qui se passe sur un bateau, okay. Ouais, qui est repris, alors qui a été inspiré de manière très assumée du film L'aventure du Poséidon, film catastrophe des années 70, sur un bateau qui coule et survivant. Et donc, en gros, le jeu, il se passe en une heure, en temps réel. où on choisit son perso. On a quatre, peut-être trois ou quatre persos disponibles au début. T'as un des membres d'équipage, t'as un comptable, je crois, quelque chose comme ça. Tu choisis celui que tu veux. Ils ont chacun une histoire. Et t'as peut-être une ou deux minutes au début où tu peux te promener sur la portion de bateau où il est, où ton perso est, etc., parler avec les gens. Et le bateau commence à couler en temps réel pendant une heure.
Et, sérieusement
et le but, c'est de se barrer du bateau en essayant de sauver les gens que tu vas croiser. Et à chaque fois que si tu tombes de trop haut, par exemple, dès que tu te fais assommer, dès que tu te fais blesser ou quoi, tu perds 5 minutes parce que le perso s'évanouit.
Mmh.
Et le but, c'est d'arriver à s'enfuir. Et j'ai jamais réussi, personnellement, parce que c'est putain de dur.
Wow.
Parce que le bateau, la manière dont ils ont fait ça, le bateau coule... Donc en temps réel, donc avec le niveau de l'eau qui monte, les lumières qui s'éteignent, etc.
Wow.
Mais surtout en mode 7. Ils l'ont développé complètement en mode 7, la rotation du bateau.
Ouais.
Et c'est pas évident du tout pour... mais c'est hyper complet parce que tu peux t'accrocher. Enfin, t'as vraiment tout qui est pris en compte. Les trucs sur lesquels tu peux monter ou pas, les portes que tu peux prendre ou pas selon comment le bateau se retourne au fil de l'heure.
Ah ouais, purée.
Et tu commences à des endroits différents selon le perso que tu prends. Tu rencontres pas les mêmes personnages selon le perso que tu prends. L'IA des personnages non jouables est complètement à chier. On est sur du Dead Rising 1, les puissances 1000, parce que sur Super NES.
Ouais.
Puis en plus, avec la rotation du bateau, ils font une fois sur deux pas du tout ce qu'on leur demande.
Ah ouais.
Mais en termes d'ambiance, en termes de structure, et puis en termes d'idées surtout, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Et enfin, c'est vraiment un jeu, tu sais, tu le relances, de toute façon, ça dure qu'une heure, et vu que tu vas te faire assommer, tu vas même pas durer toute l'heure. Donc ça va peut-être te durer 20 minutes, une demi-heure la partie, et à chaque fois, je trouve ça vraiment fascinant, la manière dont ils ont fait ça, la maîtrise du jeu.
Ouais.
C'est un jeu, en plus, j'ai appris plus tard que le développeur, j'ai plus le nom, là, faudra que je le retrouve. Il était étudiant à l'époque vous savez, les studios Jap, ils avaient leurs écoles où ils formaient leurs propres développeurs.
Ouais.
Et il était étudiant chez Human à ce moment-là. Et en gros, ce jeu-là, c'était son projet d'études, quoi.
Wow,
ouais, c'est génial.
Du coup, il faisait ça avec ses potes. Et c'était son premier jeu. Et franchement, à chaque fois que j'y rejoue, je suis vraiment impressionné, quoi.
Mais ça m'impressionne. Tout ce que tu as dit là, on dirait tellement que ça aurait pu sortir aujourd'hui.
Ah mais complètement.
Par rapport aux limitations techniques, tu vois. Là tu me parles déjà une horloge temps réel, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça déjà enfin j'imagine que c'est pas si dur à faire. Si c'est une heure quand t'éteins, bon ok. Maintenant toute cette histoire de rotation, où ça va faire évoluer le niveau, en fait le bateau il rotationne toujours un peu dans le même sens. Et ça transforme ce qui était peut-être un obstacle en plateforme et autres, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est ça, c'est que tu vas commencer le bateau, il est normal. Puis petit à petit, il va se pencher d'un côté, il va pencher de l'autre, il va parfois pencher plus ou moins brutalement. Quand tu vas commencer, tu vas partir dans une direction, tu vas pas avoir de mal parce que c'est en descente, puis tu vas revenir 5 minutes plus tard, tu vas pas pouvoir avancer parce que t'as une caisse qui aura bloqué un truc, parce que t'auras l'eau qui aura augmenté qui aura inondé tout le couloir, parce que t'auras l'électricité qui sera coupée, tu pourras plus rien voir, ce genre de truc.
Ah ouais, non mais c'est assez ouf, parce que c'est typiquement une bonne idée qu'un indé aurait pu avoir de nos jours, mais aussi sans limitation technique de nos jours, alors que là on parle d'un jeu sur SNES, quoi. Et en effet, comme tu le dis, le mode 7 qui va gérer cette rotation, et ça, à mon avis, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vraiment spécifique à la Super Nintendo de pouvoir prendre une map et de le faire tourner à l'envie, quoi.
C'est complètement ça. C'est un truc qui aurait pas pu exister ailleurs que sur Super NES à l'époque.
C'est ouf.
C'est Human à l'époque qui faisait, ils ont fait Clocktower plus tard, etc. Mais ils faisaient vraiment des petits jeux comme ça. Et même encore aujourd'hui, tu joues à ça, évidemment, ça reste, comme je disais, c'est pas très très jouable. L'IA alliée est pas, elle est à se pendre. mais tu vois les idées du jeu, t'as l'impression de voir un jeu aujourd'hui qui aurait été fait, en game jam, soit par 5 mecs développés sur 6 mois, 1 an. Et c'est vraiment.
Est-ce que c'est un genre de jeu qu'on peut retrouver un peu dans les disaster reports de nos jours?
Pas vraiment, parce que les disaster reports ont peut-être un côté plus éducatif maintenant, plus long, tu sais, beaucoup plus dilué, etc. Mais surtout, les disaster reports ont aussi une écriture qui est faite beaucoup plus avec de l'humour. Il y a toujours la balance dans le Disaster Report entre le côté très décalé, parce que bon bah c'est comme un jeu catastrophe, donc faut essayer de désamorcer la situation, surtout pour le public japonais qui est quand même très sensible aux catastrophes naturelles. Et les Disaster Reports sont aussi beaucoup plus éducatifs dans le sens où je me souviens par exemple dans le 3 sur PSP, fallait gérer la température, fallait gérer les soins, etc. Il y a vraiment le côté où en cas de catastrophe, faites ça quoi. Alors que là, c'est beaucoup plus brut dans SOS. C'est beaucoup plus sensationnel dans le sens, t'as vraiment le côté aventure du Poséidon quoi. Mais t'as aussi ce côté bah oui catastrophe au final où qui était pas du tout. En plus, c'était pas du tout dans les canons des jeux de l'époque sur Super NES. C'était, on n'avait pas encore ce côté petit jeu sur une très courte durée de temps.
Ouais, c'est vrai.
Et intimiste, parce que là on parle de gens, enfin les quatre persos, comme je disais, c'est un banquier, c'est un prêtre, c'est je sais plus. C'est des persos sans histoire quoi. Et vraiment c'est un jeu, tu pourrais le ressortir aujourd'hui. Bon, à part le côté daté du visuel du gameplay, il passerait sans problème dans le flow de jeu indé quoi.
Purée. Ah, là, c'est incroyable.
Et il y a eu une suite sur PS1. Qui a été en 3D, c'était pas SOS 2, je sais plus comment c'était le nom, mais qui a absolument pas marché, qui était encore plus injouable. Je l'ai pas testé personnellement, mais les vidéos que j'ai vues et les retours que j'en ai eus, ça a complètement bidé parce que le jeu était à la limite de l'injouable tellement il ramait et tellement ils arrivaient pas à gérer sur PS1 la 3D quoi.
Ah ouais, purée. Je regarde un peu par rapport à Human et c'est marrant, je retombe sur le Misurna Falls, donc c'est eux aussi qui ont fait ça.
Oui, c'était oui, Human, c'était Misurna Falls aussi, exact. Ouais, Misurna Falls, qui était le premier open world en 3D, même avant Shenmue, avant GTA, avant tout ça.
Et peut-être un jeu dont on parlera, j'espère, à l'avenir, en tout cas dans ce podcast, dans ce format.
J'espère bien. Ouais.
je checkais à la base la date, parce qu'en fait, on est avant la sortie de Titanic. Dans ce jeu-là. Parce que Titanic, c'est 96.
On est dans ces années-là, ouais. Là, c'est en 93, 94.
97, Titanic. 97.
Ouais. Ah non, ouais. 97, ah ouais, donc il surfait même pas sur ce buzz.
Non, c'est complètement avant, ouais.
Eh bah, super. Il y a eu un truc qui vient de m'arriver par MP. C'est la surprise. C'est notre cinquième membre, mais il sera là, par texte interposé. Et du coup, c'est notre ami du Discord. C'est MCA, le jeune MCA qui m'a envoyé un texte. Mais voilà, bah, je te remercie, MCA, d'avoir réussi ta mission, d'avoir réussi tes devoirs de vacances. Et je vais lire ça tout de suite. Alors déjà, le nom du jeu, c'est Tumbleseed.
Ah oui.
Voilà, tu connais. Ouais. Et apparemment, il me l'a vite fait présenter comme étant un pachinko, le Dark Soul du pachinko. Voilà ce qu'il a dit. Alors, voilà le titre. Tumbleseed, ou comment se planter et dégringoler en beauté. Il est des jeux qui ne cachent pas, sous leurs airs cotonneux ou les nœuds, leur envie de s'adresser à des têteurs, notamment par le biais d'une difficulté câlineuse, pour ne pas dire inexistante. Tumbleseed ne fait pas partie de cela. Sous une couche d'aplats de couleurs joliment contrastées, arpentées par de mignons insectes, se cache un titre diablement punitif. Car nous voilà au contrôle indirect d'une graine reposant sur une barre semblable à celle d'un casse-brique, elle-même imbriquée dans une ligne formant une sorte de balance. Mais pas question ici de faire rebondir une bille, de faire des putts ou de la percuter avec des flips. Tout est question d'équilibre et de nuance. En contrôlant la partie gauche et droite de la balance de bas en haut, on peut faire rouler notre noyau dans toutes les directions, son but étant de monter jusqu'en haut d'une montagne pour annihiler le fléau. Je sais pas si vous suivez jusque-là, ça m'a l'air très compliqué. Hein.
Je vois, j'ai les images, moi.
Tu vois. Ah, n'hésitez pas à checker chez vous les images. Le pépin, c'est que l'inertie de notre baie est assez forte et que le chemin est criblé de trous, comme si un Don avait déchargé son Thompson sur un pachinko. Notre première escalade dans le jeu ressemble ainsi plus à une sortie d'un bar rabat qu'autre chose. L'expérience penche alors très vite du côté d'un Monkey Ball avec lequel il partage une difficulté qui monte bien plus vite que les capacités du joueur et une propension à faire souvent serrer les fesses dans des endroits où le moindre écart de roulement signifie la chute. Si la punition d'une défaite est pour le moins troublante, On recommence tout le niveau ou l'aventure selon le mode. On nous laisse toutefois quelques différentes graines dans nos mains vertes.
Oh là là.
C'est... Je lui avais dit 10 lignes, hein. Je m'ai envoyé une page. Chacune a un pouvoir spécifique qui ne s'active que si l'on passe sur des lopins de terre observateurs. Planter un drapeau, faire fleurir des cristaux, qui sont la monnaie du jeu, remplir un cœur ou encore s'armer d'épines font partie du lot de base. Le choix est alors laissé aux joueurs pour ce qui est de l'endroit où faire germer un checkpoint duquel on ne pourra pas dégringoler plus bas. Ah oui, d'accord, d'où l'aspect Dark Souls du coup. C'est toi qui gères tes checkpoints en fait. C'était dans quel Dark Souls tu pouvais détruire...
Moi je vois ce système dans Shovel Knight
et dans...
Et dans Ori, ouais.
Attends, dans Shovel Knight, oui, de ouf. Mais je dis de la merde, ou c'est pas dans un Nioh ou un truc comme ça. Non, je me souviens plus. Parce que je sais qu'ils avaient prévu dans le 2, dans Dark Souls 2, tu voyais des, ils ont trouvé des assets, des machins, comme quoi ton perso était capable de créer ses propres feux. Mais apparemment, ils ont pas utilisé ça du coup. Bon, je finis. Plus technique qu'en apparence, si vous n'aviez toujours pas pris de la graine sur votre art du self-control dans d'autres jeux plus sombres, alors Tumbleseed vous clouera le bec. J'avais une autre formulation plus à propos, mais pas sûr qu'elle soit du goût de tous. Voilà.
J'ai retenu que ça ressemblait à Super Monkey Ball.
Vous voyez les jeux pour enfants où tu dois faire monter... t'as une bille que tu fais glisser sur une barre et tu dois faire monter cette bille tout en haut d'une petite structure en plastique. Et sur dans la structure, t'as des trous et tout. Et donc, tu dois faire rouler la bille pour pas qu'elle tombe dans les trous tout en la faisant remonter. Bah, c'est ça.
Ok. Oui, ça me dit quelque chose, ce dont tu parles là. Ok, bah voilà, bah checker Tumbleseed, hein, ça a l'air, ça, en tout cas, ça lui a plu à MCA. Bon les gars, c'est à mon tour. Je vais faire simple, efficace. Avec vos trois jeux, je trouve qu'on a vraiment couvert un spectre qui est vraiment intéressant pour l'avenir du podcast. On a du jeu rétro pas connu, expérimental, du jeu moderne pas connu. Et des jeux et du cul, voilà. Et du coup, je me posais la question, bah, pour ma part en tout cas, comment bien débuter ce podcast. Et j'ai trouvé en la personne de Real Myst une sorte de remake de Myst, mais le remake de 1999 qui fait passer le jeu de la 3D précalculée à de la 3D entièrement en réel. En la personne de ce jeu un peu hybride, qui est à la fois, certes, un classique, mais plutôt rétro, le premier Myst, c'est 93, cette fois-ci refait en 99 dans une version, finalement, dont on connaît bien moins de choses, puisque on connaît tous l'imagerie du Myst premier, précalculé, etc. Mais ce Myst 3D temps réel est un petit peu plus obscur. Alors je précise que j'avais pas fait Myst 1, j'avais seulement fait le 3 à peu près à l'époque de sa sortie. Au moment du 3, on était déjà plus dans l'âge d'or de la série, c'est-à-dire Myst en 93 et Riven en 97, il me semble, quelque chose comme ça. Donc Myst, l'original en tout cas, c'est un point and click, première personne, qui se passe finalement dans des cadres, dans des décors entièrement précalculés. On crée des mondes fantastiques à partir d'images de synthèse et on les précalculait. Et du coup, ça permettait de faire des jeux qui avaient vraiment une esthétique. Et en même temps, aussi peut-être du côté marketing, c'était le début d'une période où on parlait de la 3D. Donc les gens étaient là, ouais, la 3D. Donc tu disais, je sais pas si vous voyez les gars, mais à l'époque, il y avait un peu une ambiguïté entre l'image de synthèse et l'image en temps réel, quoi. Pour les gens, ils savaient plus trop. Moi, je me souviens, j'avais le disque de démo de Blade Runner. Et quand tu regardais les graphismes, tu faisais « Waouh, mais ça y est, c'est la 3D, c'est trop bien fait !» Alors que tout ça, c'était que des décors pré-rendus avec au milieu un personnage en temps réel, quoi. Riven, la suite de Myst, qui est sortie genre 97, où là, pour le coup, en quoi 4 ans, ils sont vraiment passés de « on arrive plus ou moins à créer quelque chose qui ressemble à la vraie vie » à un truc où ils avaient, en 4 ans, les technologies avaient explosé, ils arrivaient vraiment à se faire super plaisir en termes de design, etc. Donc il y a eu Myst, Riven, et en 99, Real Myst. Donc relativement rapidement, 6 ans après, ils ont été capables de transposer tous leurs jeux qui étaient en pré-rendu en un jeu temps réel. J'ai hésité au début, je me suis dit, est-ce que je veux faire la vraie expérience de base et tout, et après j'ai vu ce truc, je me suis dit, ah, c'est, ça rajoute un peu de cachet, c'est un peu différent. Et du coup, c'est plus ou moins le Myst en termes d'énigmes, on est plus ou moins sur le Myst original, à la différence qu'en gros, là où le Myst original avait des cadres vraiment imposés, qui mettaient parfois quand même en valeur les énigmes, t'avais pas 36 000 possibilités ou 36 000 angles de vue que tu pouvais adopter pour comprendre une énigme. Là, c'est vrai que le côté caméra libre à 100%, ben, il te vraiment... Je vais vous donner un exemple. Quand tu commences le jeu, tu es sur le dock et en fait, à ta gauche, tu as une porte. Dans le jeu de base, ça crève les yeux. Tu as une porte, tu passes ton curseur, tu peux cliquer et rentrer dedans. Sauf que la porte, elle est un peu inclinée. Et ben moi, dans la version temps réel, je pensais que c'était une sorte de passerelle et du coup je commence à courir sur la porte pour monter la colline. Sauf que du coup je me baladais, je fais mais il faut faire quoi et tout, et je cherchais partout. Et en fait j'avais marché sur la porte, quelque chose qui est absolument impossible dans le jeu original évidemment, de faire ça.
Dans la version de base en précalculé, tu te déplaces pas en temps réel, tu cliques d'un écran à un autre, c'est ça ?
Ouais.
Et dans la version en temps réel, tu te déplaces. Tu te déplaces, c'est ça ?
Voilà, comme quoi j'ai vraiment mal expliqué. Dans la version en temps réel, t'es vraiment en train de te déplacer comme si t'étais dans un FPS, quoi.
Ah,
quasiment
ouais.
Pareil, quoi. Ouais, ouais. Oui, putain, t'as raison, j'aurais dû l'expliquer plus tôt, ça. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pu marcher sur la porte qui n'était pas faite pour ça. Parce qu'en fait, tu te balades complètement. T'as les deux choix, hein. T'as le choix comme l'original ou t'as le choix vraiment tu te balades. Et moi j'y ai joué comme ça parce que je kiffais, mais au final je suis pas certain que ça soit plus simple. Et du coup bah le jeu en tant que tel, je pense que c'est un jeu qui a vraiment marqué son époque. D'ailleurs c'est marrant Guigui, parce que c'était le jeu qui avait vendu le plus de copies je crois ever ou sur PC. C'était genre 4 millions ou 5 millions de jeux vendus le premier Myst. Et il a été détrôné par les Sims, le premier Sims.
Ouais, Sims, c'était pendant longtemps, hein. C'était une des trucs les plus vendus, des franchises les plus vendues.
C'est un jeu, évidemment, qui a posé des standards. Alors, il y en a des bons, il y en a des moins bons de standards qu'il a posé. Il y a encore une fois tout ce côté un peu cryptique, puisque les seules personnes qui vont te parler, c'est deux frères qui sont emprisonnés dans des livres. Mais ça, c'est facile de l'expliquer quand t'as compris. Quand tu commences, t'as à peu près n'importe quoi sur l'île centrale, c'est le hub central en gros, et il s'avère que t'as deux livres où quand tu les ouvres, t'as un tout petit écran, parce qu'à l'époque, pour faire de la vidéo dans les jeux, ça prenait beaucoup de mémoire, donc t'avais des vidéos super compressées, souvent toutes petites, tu vois. Et du coup, t'as un tout petit cadre avec deux mecs, un en rouge, un en bleu, et en plus, il y a des parasites un peu comme sur une TV qui t'empêchent de comprendre ce qu'ils disent. Et en plus, c'est en anglais, enfin moi en tout cas en anglais. Et du coup, je disais, mais c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça sera les seules personnes qui vont t'adresser la parole plus ou moins dans le jeu, enfin sans spoiler trop. Et ensuite, t'as une bibliothèque avec plein de livres. Et sauf que là, un peu à la manière d'un Another World ou Oddworld, mais Another World, c'est le bon exemple, c'est que t'as l'impression que les mecs, ils disent, hey, les gars, on peut faire de la 3D ou dans le cas d'Another World, on peut faire un peu de vectoriel et tout. On va pas faire un truc du quotidien, on va faire un truc complètement barré, on va faire un autre monde, tu vois. Et là, c'est vraiment le truc. Et quand tu commences à justement, t'as une bibliothèque, tu vas commencer à bouquiner des bouquins et ça te raconte des trucs que tu comprends pas. C'est genre, oui, le cristal n'est pas bien aligné avec le livre et tout. Et en fait, de fil en aiguille, bon, je vais un peu spoiler parce que sinon, on se comprendra pas, mais de fil en aiguille, tu comprends que non, il y a un lore qu'il faut vraiment comprendre. C'est un monde dans lequel tu voyages en écrivant, avec un livre, t'écris dans un livre. Enfin, tout ça, c'est très, très, très étrange. Et le jeu, il s'articule comment ? C'est en gros l'île centrale et 4 ou 5 autres îles sur lesquels tu vas te rendre pour retrouver des pages des livres des deux frères et les ramener et décider d'en libérer l'un ou de libérer l'autre. Mais quand t'es sur les îles, les niveaux, c'est-à-dire pas l'île principale, t'as que du cryptique. Tu vas avoir très peu de choses expliquées, t'arrives dans un truc, je vais être très honnête, il y a une énigme que j'ai toujours pas compris en fait, que j'ai résolue mais que j'ai toujours pas compris et j'ai juste, en fait t'es dans une sorte de labyrinthe et en fait il y avait une énigme par rapport à des sons, finalement une sorte de labyrinthe basée sur des sons, j'ai fini par juste essayer toutes les routes, essayer de faire marcher ma mémoire, voire dessiner sur un papier et je me suis battu les steaks de l'énigme parce que je comprenais pas, tu vois c'est trop cryptique. T'as une île qui est consacrée aux énigmes du son. Et en ce sens, moi, ça m'a rappelé aussi The Witness, où t'as vraiment une partie de l'île où il n'y a que des énigmes sonores. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, c'est un peu pareil. Alors, en gros, The Witness, c'est une île avec des parties. Ici, c'est un hub central, une île, et 4-5 autres îles à côté. Je dis 4-5 parce qu'il y a une île bonus qui est rajoutée pour la version 3D temps réel. Et il faut quand même noter qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs versions remake après ça, y compris un truc qui s'appelle Masterpiece Edition, qui reprend le même concept que Real Mist, mais c'est sorti en 2017, et donc c'est refait avec un moteur récent, et là c'est beau et tout et tout. Après, moi j'ai choisi cette version intermédiaire pour garder quand même un petit cachet de l'époque et me voilà, un nostalgique, n'est-ce pas? Mais non, j'ai été tenté par la nouvelle version aussi, bah, vous verrez, elle est stylée. Mais après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est oui, Myst, ça a donné plein de petits enfants. Genre moi, je pense à la mer zone du côté français et tout, et vraiment où tu vois, il y a des influences. De toute façon, ça te transperce quand tu joues, tu fais « Ah mais putain, tu vois, la mer zone, c'est basé sur une BD de Benoît Sokal qui s'appelle La mer zone, mais c'est les aventures de l'inspecteur Canardo. » Sauf que quand Benoît Sokal décide d'adapter une BD plutôt assez sérieuse, mais quand même avec le côté « c'est un canard le mec », tu vois, et ben là, influencé par Myst, il va pas se dire tiens j'ai une idée, un point et click où tu joues un canard, c'est un peu marrant, c'est comme une BD. Il se dit non, je vais mystifier mon Amerzone. En fait, checkez sur online les auditeurs et qu'est-ce que c'est que l'Amerzone en BD. Bon, c'est l'inspecteur Canardo quoi, c'est pas la plus connue des BD mais quand même. Et pareil, dans la mer zone, tu vois, bah, ça commence sur une île avec un phare, tu vois, alors que dans la BD t'as pas de mémoire, t'as pas d'île avec un phare. Enfin, je l'ai lu, mais là, je pense que non. Je pense que ça vient directement de l'influence de Myst, quoi. Du coup, bah, tu te rends compte que ouais, ça a influencé à mort, et de fil en aiguille, bah, on a eu aussi tous les jeux français, c'est français tout ça, la Versailles, Égypte, qui étaient donnés dans les boîtes de céréales quand même, ouais, à un moment donné, ouais. Vers la fin. Tu te souviens ?
J'étais terrorisé d'Égypte quand j'étais petit. Ah ouais, ouais, enfin. Quand j'y jouais, quand j'étais jeune, et moi, la vue en première personne, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un, il y avait toujours quelqu'un dans mon angle mort. Et je me rappelle d'Égypte, ah ouais. Il y a une énigme, à un moment, tu dois rentrer chez un gars. Enfin, tu vois, c'est vraiment fait comme, ouais, comme un film pour un moment où, ah, vite, le contremaître est parti, on va aller lui voler des trucs.
Ah ouais.
Et tu rentres dans son grenier, il fallait faire un truc, et t'avais la voix de l'autre personne qui dit, dépêche-toi, il va bientôt revenir. Et ça me stressait comme un dingue. Mais ça me rendait fou, alors que, et j'ai jamais réussi à passer cette énigme parce que j'étais trop stressé, alors que je me rends compte que, ben, en fait, il allait pas revenir, c'était juste un event, il y avait un trigger quand tu trouvais quelque chose, quoi.
Ouais, c'est ça. Eh ben ouais, pareil, un peu les mêmes expériences sur 1K2. Pareil, un point and click, mais j'ai checké les dates, ça, c'est postérieur à Myst, mais par contre, technologiquement, c'est largement inférieur. Mais pareil, ouais, truc, ouais, il y a des moments où il faut s'infiltrer, mais en fait, vu que c'est un point and click, t'as pas vraiment de... tu vois, il faut juste pas cliquer au mauvais endroit, quoi. Eh non, mais c'est marrant. Moi, ce que je peux dire sur ma partie, c'est que quand j'ai commencé, je suis allé dans la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins. Et c'est vrai qu'en faisant ça, c'est des trucs un peu, c'est tout con, tout le monde ne va pas le faire et moi-même, je vais pas systématiquement le faire. Mais quand tu fais ça, directement, bah, t'as tout le lore qui te pèse sur les épaules et du coup, ça imbibe les décors. En fait, t'es plus dans des décors un peu en 3D basique désincarné, t'es vraiment dans un truc qui est imbibé du lore que tu viens de lire, parce que finalement, la littérature pure, le texte écrit, a encore vraiment un vrai pouvoir d'évocation, je trouve, même à l'époque du tout numérique et des jeux vidéo, quoi. Tu lis un texte, tu commences à t'imaginer, il y a un mystère et tout. Et voilà, en fait, c'est le père des deux frères qui écrit les livres. J'ai pas trop envie d'aller dans les détails, parce que je trouve qu'il y a quand même des belles choses vers la fin, en termes de petites surprises et tout. Vous avez des questions ? Non ?
Non, pour moi, c'est...
Moi, j'ai découvert l'inspecteur Canardo.
C'est Ken, l'inspecteur Canardo, ou pas ?
Canardo, parce que Ken est un canard. Mais ça, c'est plus à la mode de dire « il est un canard », honnêtement. Là, l'inspecteur Canardo, mon père avait un des épisodes à la maison, mais c'était pas la mer zone. Et plus tard, et après on a eu la mer zone, et après j'ai fait le lien, j'ai connecté, j'ai fait putain, l'inspecteur Canardo, c'était aussi le gars qui a fait la mer zone, il a fait la mer zone après et tout. Et du coup j'ai acheté la BD et ouais, je l'avais lu, mais c'est le principe, c'est le même, hein, mais ouais, vraiment la mer zone va rendre tout ça plus sérieux, plus cryptique, quoi. Et je pense que ça vient de l'influence de Myst, mais bon. Ah oui, et un autre truc vraiment cool que le remake Real Myst en 3D temps réel rajoute par rapport au Myst original précalculé, eh bien, vu que tout est calculé en temps réel, ils ont pu aussi mettre un cycle jour-nuit. Et du coup, bah, selon l'heure de la journée, tu vas avoir un éclairage différent, des lumières différentes, qui vont vraiment permettre de découvrir les décors du Myst original sous un nouveau jour, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en fait, tu vas avoir tout un jeu d'ombre, tout un jeu de lumière différent, quoi, selon l'heure de la journée. Et en plus, il y a certaines zones, je crois que parfois il peut pleuvoir, et même il y a une zone dans laquelle il neige. Et du coup, je trouve que c'est assez ouf, surtout à cette époque, en 99, dans un point and click, encore plus, quoi, d'avoir rajouté un cycle jour-nuit, comme ça, just because, et qui vraiment, là où le premier, enfin l'original, avait vraiment toujours systématiquement une sorte de soleil, tout était à peu près éclairé de manière uniforme, avec un ciel dégagé, etc. Là, ça va vraiment créer plus l'impression que tu vis dans ces mondes, que tu y passes des journées. Et ça fait le lien aussi avec les bouquins, les journaux que tu trouves, les journaux intimes, entre guillemets, qui dit « oui, tel jour j'ai fait ci, tel jour j'ai fait ça ». Là, tu sens vraiment les journées passer. Et voilà, donc vraiment, ils n'ont pas fait ça par-dessus la jambe en rajoutant dans ce remake un cycle jour-nuit qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui apporte vraiment quelque chose. C'est vraiment cool, en tout cas. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ce n'était pas trop chaotique. Franchement, les gars, bravo. C'était hyper bien. Tous vos jeux, là, c'était grave bien. Vous êtes rentrés parfaitement dans le sujet, dans le concept du podcast. Et ça fait plaisir. Et franchement, excellent. Donc, franchement, j'espère qu'on va en faire plusieurs des comme ça, selon qui aura joué à quoi, évidemment, qui aura envie de parler de quoi. Mais je pense que autant quand on joue à un truc que tout le monde a joué, on en discute entre nous et tout le monde a son avis et tout. Autant parfois quand on joue à un truc qu'on est un peu le seul à avoir joué dans son entourage, en tout cas, on peut se sentir parfois un peu tout seul. On se dit mais à qui je parle de ça en fait ? Et du coup, on n'a pas vraiment l'occasion d'extérioriser l'expérience. Ce qui fait que je pense que ce podcast, dans ce sens-là, ça peut être intéressant et ça peut aussi donner envie aux gens de « tiens, je pourrais jouer à ça, je pourrais jouer à ci ». Et aussi peut-être globalement de montrer que le jeu vidéo, bah, c'est pas que le dernier triple A et voilà, vous m'avez compris quoi. C'est pas juste, on n'est pas obligé de systématiquement jouer à ce qui vient de sortir ou on peut prendre son temps pour creuser et tout. Et il y a, c'est vraiment sans limite en fait. Et c'est étonnant pour un art qui est, enfin, c'est sans limite. Il y aura forcément des limites, mais on les a pas encore atteintes. On découvre encore des choses. Et pour un art qui est assez jeune, qui continue d'évoluer et tout, c'est vraiment cool, quoi.
Je sais pas si on les atteindra un jour, mais c'est un autre débat, ça.
Ouais, voilà, voilà. Bah après, du moment que tu continues, voilà, tant que tu creuses, tu découvres d'autres trucs, et plus tu creuses, plus tu deviens intéressé, entre guillemets. Et ouais, c'est vraiment cool, quoi. Donc ce podcast sera là pour ça, mes amis. Voilà.
C'est beau.
Moussaillon. Bon, allez, bah, un mot de la fin. Vous avez le mot de la fin, là?
Ouais, tu nous prends de court.
Non, mais histoire d'eux, tu sais, après.
Le mot de la fin, non, c'était chouette. Moi, je pense que je vais essayer, quand je me serai un peu détendu, de faire le deuxième épisode de la série Spirit Hunter.
Nice.
Quand j'aurai un peu moins peur. Quand j'aurai déstressé, je pense que j'essaierai de le faire. Et sinon, c'était cool, parce que j'ai vraiment découvert des jeux. Septentrion, c'est très cool, ça, je pense que je pourrais en reparler. Warcraft, c'est cool de l'avoir découvert aussi, mais je sais pas si j'en parlerais, tu vois, forcément à table avec, avec des potes, mais. Mais je me dirais, ouais, ça existe, quoi, je le sais maintenant.
Ouais. Super.
Donc, c'était très cool.
Nice. Bon, bah alors, on se dit quoi, les gars, à plus.
Yes.
Et au prochain épisode.
À plus. À la prochaine.
Ouais. Allez, ciao, ciao.
Ciao.
Bye bye.
Bye.